Vous avez déjà vu une usine d'eau minérale? J'en ai visité une au Liban. C'est pas une usine d'eau du tout, c'est une usine de plastique.
CO2, mon amour.
Les fabricants affirment qu'il n'y a aucun danger pour la santé. Les pharmaciens conseillent de donner quand même de l'eau en bouteille de verre aux nourrissons.
Denis Chesson.
Et les chicaneurs considèrent que le foie fixe mal les fibres de polyvinyle de chlorure. Bon.
Sur France Inter.
Ça, c'est pas mal pour débuter Franck Lepage avec une de ses conférences gesticulées qui démontre bien en général les mécaniques politiques, d'entreprises institutionnelles. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 Mon Amour, une émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite, qui essaie de rapprocher les hommes et la nature, avec Stéphane Beaujat aujourd'hui à la technique, et nous avons préparé l'émission avec Elisa Mchin, et c'est Camille Blanès qui la réalise cette semaine. Ah ouais, ça c'est pas mal pour débuter avec une petite humeur, mais qui a un rapport absolument direct avec le sujet du jour. Heureux habitants de la région de Vittel, l'eau neuve de vos cellules va sans doute avoir du mal à arriver chez vous de façon naturelle, sans passer par le rayon embouteillage plastique de Nestlé Waters, la multinationale dont le sigle représente un nid douillet hébergeant des petits oiseaux tout mignons. Eh oui! Car ces gros gourmands pompent depuis 30 ans 800 millions de litres par an, détournent une partie de la nappe phréatique locale donc à leur profit, même s'ils versent des taxes bien évidemment. Et face à la polémique qui date maintenant d'il y a quelques mois, au chantage économique de la multinationale et sur fond de conflits d'intérêts, eh bien les pouvoirs publics, la commission locale de l'eau et le département des Vosges envisagent désormais de déplacer le problème d'une nappe phréatique à une autre. On va s'expliquer. Si vous ne voulez pas payer donc une eau en bouteille hors de prix ou séchée sur pied comme des vieux cactus mexicains, eh bien, joyeuses vitelloises et vitellois, il vous faudra donc chercher ailleurs votre eau de tous les jours, creuser comme des taupes et faire passer par vos belles galeries 30 km de tuyaux pour vous ravitailler à une quinzaine de kilomètres de chez vous. Lorsque les ressources de la nappe vitelloise seront insuffisantes, évidemment, réchauffement climatique, tout ça, ça baisse un petit peu. Priorité à Nestlé. Ah ben non, pas question d'une diminution des prélèvements accordés à la multinationale, alors que la loi sur l'eau précise que les ressources locales sont destinées prioritairement aux habitants. Alors France Nature Environnement a discuté avec le Brésil et le Canada, qui vivent les mêmes problèmes avec Nestlé. Au Brésil, ils ont pu faire arrêter un prélèvement. Et en fait, nos grands voisins germaniques d'Outre-Rhin, hein, friands d'eau minérale sous blister, s'en sont il y a quelques mois offusqués. Ils sont bien gentils d'ailleurs d'avoir tiré le signal d'alarme pour nous réveiller, nous avertir, en esquissant même un début de boycott de cette enseigne moyennement, on va dire, partageuse. Alors allons-nous suivre d'un même élan avec France et Vosges Nature Environnement? Nous, les Gaulois, fort en gueule. Alors il est vrai qu'il ne s'agit pas là d'histoire de pétrole, d'octane raffinée, mais c'est quand même un combat qui en vaut bien d'autres, car le problème à terme de l'eau sera plus important que celui du pétrole. Alors je sais bien, vous allez me dire, on mène une vie telle, mais quand même, avec cet accaparement du bien commun transformé en intérêt public, il y a peut-être matière à porter une plainte contre Aix. Bon alors sinon, on peut aussi avoir porté plainte contre le printemps. Le printemps qui a fait une EPA inamicale, comme on dit dans l'aviation. Sur qui? Sur l'hiver. Qui n'a pas terminé son boulot de froid nécessaire, hein? On peut compter sur personne, même pas sur les saisons, c'est absolument incroyable. L'eau, c'est vrai, je suis pas sûr que vous en parliez beaucoup, les uns et les autres. C'est-à-dire qu'on a eu quand même une reprise en main, ça c'est intéressant, de nous tous sur notre alimentation. Maintenant davantage sur l'énergie, mais l'eau, on en parle quand même relativement peu. D'où l'intérêt de ce dossier, parce que j'ai eu pas mal de mail me disant, est-ce que vous pourriez un peu nous éclairer là-dessus? Je sais que vous avez plein de sources d'informations et c'est ce que l'on va faire. Bonjour Martin Guton.
Bonjour Denis Chesson.
Alors vous êtes Martin Guton, le directeur général de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. On va raconter ce qu'est une agence de l'eau et quel est son rôle, hein, bras armé on va dire financier, mais ça va peut-être plus loin que cela. De quoi allons-nous parler en fait?
Bah, j'espère qu'on va parler d'eau, ouais. Comment ça marche, comment ça coule. Donc une agence de l'eau, c'est un établissement public du ministère de la Transition écologique et solidaire. Et finalement, j'insisterai moi sur ces deux adjectifs, écologique.
Et vraiment solidaire.
Et on le devient de plus en plus, on a progressé sûrement sur le sujet. Et solidaire, parce que les agences de l'eau, c'est un outil de solidarité notamment territoriale.
Alors il y en a 6 hein, qui sont découpés en bassins hydrographiques, on va y revenir. Avec nous aussi Thierry Gadeau. Thierry, vous êtes journaliste d'investigation indépendant, vous êtes assez spécialisé dans l'enquête économique. Vous aviez sorti un ouvrage qui s'appelait d'ailleurs Areva, mon amour.
Hein, c'était... Tout à fait, bonjour Denis.
Bonjour à vous. Vous avez écrit écrit aux éditions Michelon l'année dernière, Plongée en eau trouble. Alors là, on va peut-être éclairer aussi deux, trois petites choses.
Oui, la France a une particularité dans le monde, c'est le seul pays où la gestion privée de la ressource est majoritaire, c'est-à-dire l'eau potable qu'on boit et l'assainissement sont réalisés par des entreprises privées. Partout dans le monde, cette gestion est assurée par les pouvoirs publics. Et malheureusement, en France, cette gestion privée donne lieu à un certain nombre de turpitudes que je décris dans mon livre.
Alors, nous allons revenir là-dessus. Et puis aussi, nous aurons en ligne Thierry Burlot, qui, pour la région Bretagne, a une vision tout à fait forte et tout à fait intéressante de l'eau. Nous irons aussi, donc, au reportage dans le Morbihan pour vous montrer qu'on peut avoir une reconquête, une requalification d'une rivière, c'est-à-dire lui redonner donc toute sa vie pour qu'elle puisse travailler et faire son boulot, simplement, de rivière, donc une fois de plus avec la nature. Et ça, ça nous est cher dans cette émission. Nous débutons, ben oui, avec quoi ? De la musique ?
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chantais ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais ? Si je voulais de plus belle que sur la photo de mon disque orange, suis-je seulement celle, celle dont j'ai l'air? Souvent je change.
Fier quand même, hein, Clara, parce qu'avec les chauds et froids, elle vient nue vers toi. Donc c'était Clara Luciani, choisie par Thierry Dupin, notre programmateur.
L'eau doit être nettoyée et contrôlée sans relâche, car l'homme est une sorte de grosse gourde composée à 70% d'eau et à 30% de glyphosate. Il doit donc s'hydrater toute la journée. L'eau donc, en plus d'être mouillée, doit être propre. Alors l'homme doit la nettoyer. Nettoyer l'eau ? C'est absurde, vous allez me dire. Et pourquoi pas faire sécher du vent non plus. Arrêtons de plaisanter.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Ah non, on continuera donc avec Constance, vraiment avec grand grand plaisir, que l'on retrouve chez Charline Vadenecker à 17h en semaine. Et au milieu coule la rivière et l'eau du robinet. Alors depuis des milliards d'années, le cycle de l'eau se renouvelle perpétuellement et permet donc à tous les organismes vivants de la planète de vivre, de se reproduire. Et vous avez quatre étapes qui sont toujours répétées. Vous avez l'évaporation, la condensation, la précipitation, le ruissellement, quelle que soit la forme de l'eau, donc liquide, gazeuse ou solide. Donc d'un côté, vous avez les nuages qui sont formés au-dessus de la mer. Je suis une petite goutte de pluie, je tombe sur votre sol, je m'infiltre et puis je rejoins une nappe phréatique ou une rivière, un fleuve, l'estuaire, la mer. L'ingénieur, là, s'appelle la nature et c'est ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau. Je suis l'eau du robinet qui a été captée dans un lac, une rivière, une nappe phréatique, amenée chez vous, après relâchée dans les égouts, puis nettoyée dans une station d'épuration. C'est le petit, cette fois-ci, cycle de l'eau, donc qui est technique, c'est de l'eau d'ingénieur, c'est de l'eau du business, c'est aussi des tuyaux. On en consomme quand même en France entre 120 et 150 litres par personne. Les États-Unis, le Canada n'en regardent pas, ils sont à 250. En Afrique subsaharienne, c'est 10 à 20 litres par jour maximum. On va se focaliser vraiment sur la France aujourd'hui, parce qu'on pourrait bien sûr parler de l'eau dans le monde, mais là ce sera une autre émission, je l'ai déjà faite, on y reviendra. 97% de l'eau de la planète, c'est la mer, 3% d'eau douce et seulement 1,5% qui est utilisable. Alors, c'est vrai que Martin Guton, donc je rappelle, vous êtes le directeur général de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, on va revenir sur cette agence de l'eau, mais je vois qu'il y a 35 000 alors, organismes qui sont chargés de l'assainissement, de la potabilisation, il y a les communautés de communes, il y a les agences de l'eau, je retourne ma facture, parfois j'y comprends pas grand-chose, qu'est-ce que je paye lorsque je paye de l'eau ?
Globalement, sur le bassin Loire-Bretagne, les particuliers payent l'eau à peu près 4 euros le mètre cube. Et je crois que c'est à peu près le chiffre national. Rapporté au litre d'eau en bouteille des marques citées tout à l'heure de Denis Chessou, c'est effectivement pas grand-chose. Pour autant, c'est vrai que ça représente un budget de l'ordre de 500 euros par an pour un ménage de taille moyenne. Et là-dedans, il y a à peu près 40% qui est lié à la production, au traitement, à la distribution de l'eau potable par des structures qui prennent effectivement des formes variables selon les territoires. Il y en a à peu près 40% également qui correspondent à l'assainissement, puisque une fois qu'on a consommé son eau, elle est rejetée et donc il faut la traiter avant qu'elle soit rejetée dans le milieu. Ça, c'est les grands progrès des années 60 à 80. Hein, c'est l'équipement de la France en système de traitement. Et puis, il y a des contributions à un certain nombre d'organismes comme les agences de l'eau, avec une redevance qui représente 12 à 13%, et puis il y a également un petit peu de TVA. Voilà comment se décompose le prix de l'eau en France.
Alors je reviens sur ce que vous connaissez très bien, donc agence de l'eau, vous êtes 6 agences de l'eau, vous avez celle de Ladour-Garonne, Artois-Picardie, la vôtre, on va dire c'est la plus importante en termes de territoire, c'est la Loire-Bretagne, Seine-Normandie, Rhône-Méditerranée-Corse et Rhin-Meuse. À quoi servent ces agences de l'eau? Qu'est-ce que ça finance? À quoi ça sert?
Petite précision, ça c'est la métropole, hein,
et on et a vous également, avez raison,
n'oublions pas nos outre-mer qui écoutent CO2,
CO2 mon amour. Et qui, lorsqu'on est à la Guadeloupe, ont des vrais problèmes de flotte extrêmement importants parce qu'ils ont 70% du réseau qui est pourri avec plein de fuites dans tous les sens. Mais ça c'est voilà. Donc à quoi sert une agence?
Alors ça sert, j'espère que ça sert à quelque chose. Moi je le vois de mon côté évidemment. C'est des structures qui ont été créées, comme ça a été rappelé tout à l'heure, il y a plus de 50 ans par les grandes lois de 64, hein, la grande loi sur l'eau qui a structuré notre organisation administrative. Et c'est une organisation assez originale puisqu'elle échappe aux limites administratives.
Donc c'est par bassin hydrographique.
C'est les bassins hydrographiques, hein, c'est les grands fleuves français, la Garonne, la Seine, la Loire, le Rhône, le Rhin. On retrouve notre organisation hydrographique. Ça, je crois qu'il n'y a pas d'équivalent dans les organisations administratives. Et donc il a été décidé dans les années 60 d'avoir des organisations qui allaient pouvoir prendre en charge, confiée par l'État, hein, par les ministères, parce qu'alors à l'époque il n'y avait pas encore de ministère en charge de la transition écologique et solidaire, de prendre en charge la solidarité sur les territoires pour reconquérir la qualité de l'eau. Et puis tout ça s'est élargi ensuite, la qualité de l'eau s'était vue de façon très réduite, hein, comme je viens de le décrire, petit cycle de l'eau, eau potable, assainissement.
Voilà, c'était les tuyaux.
Et puis progressivement, je crois qu'on a compris que l'eau potable, c'était pas simplement ça, c'était l'ensemble du milieu, l'ensemble d'un bassin hydrographique, le grand cycle de l'eau, hein, la goutte d'eau qui tombe sur une parcelle de prairie ou de terre labourable et qui ensuite va circuler dans l'espace jusqu'à atteindre la nappe phréatique, le cours d'eau, et pouvoir être utilisé ensuite par l'homme pour son usage domestique, industriel ou agricole.
C'est-à-dire qu'au départ, on est parti beaucoup sur le curatif. Et maintenant, quand même, on s'intéresse un peu plus au préventif en se disant que ce serait pas mal quand même de ne pas souiller l'eau avant de la remettre après dans le circuit. Qui gouverne? J'ai dit, est-ce qu'il y a une gouvernance de l'eau? Parce que je vous parlais de ces 35 000. Alors maintenant, ça va se réduire avec la loi NOTRe, mais de 35 000 donc, lieux de potabilisation, d'assainissement. Il y a les communautés de communes. Il y a l'agence de l'eau. Donc, il y a une directive au départ, il y a une directive européenne, puis après ça va redescendre et se décliner avec des lois françaises. Mais en fait, qui gouverne ?
Alors, c'est important de le souligner, c'est-à-dire qu'en effet, on est dans un champ très européen. L'essentiel des textes que nous appliquons aujourd'hui, on a parlé d'une loi française de 64, mais c'était avant la mise en place de l'ensemble des textes législatifs communautaires. Donc on a une grande directive cadre sur l'eau, on a directive sur les eaux résiduaires, on a une directive sur les nitrates par exemple, donc tous les champs qui concernent l'eau sont couverts par des textes européens. Et puis ensuite, les acteurs principaux historiques, ce sont les communes, accompagnés par les départements. Donc c'était quand même depuis la Révolution, d'une certaine façon, la commune était en charge de ce sujet qui était est quand même le service public. On l'a un peu oublié en France parce qu'on est tellement habitué à ouvrir un robinet et l'eau coule. Au départ, c'était quand même pas un service qui existait partout. Et donc c'est la commune. Et puis tout ça s'est réorganisé au gré des lois de décentralisation successives. À terme, le schéma qui semble se dessiner, je dis il semble parce qu'il peut y avoir des évolutions législatives, c'est que les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les métropoles seront en charge de l'eau potable, de l'assainissement et de la gestion des milieux.
Et on reviendra donc aussi sur le financement aussi, parce que donc il y a certaines pollutions. Enfin bon, l'agriculture donc consomme évidemment beaucoup d'eau. On reviendra donc sur cette agriculture. Thierry Burlot, bonjour à vous.
Bonjour Denis.
Alors Thierry Burlot, vous êtes vice-président du conseil régional de Bretagne, en charge de l'environnement et de l'eau. Vous avez 2470 km de côte, et je dis ça parce que c'est important de faire le lien entre la côte et évidemment l'intérieur des terres. Ça représente un tiers des côtes métropolitaines, 35 000 km de cours d'eau, 3 200 000 habitants en Bretagne, mais qui produit pour 20 millions d'habitants. Alors ce problème de l'eau, je voulais que vous soyez là parce que vous avez une vision, j'allais dire originale, qu'on devrait peut-être tout savoir, mais vous partez sur une évidence, mais qu'il faut vraiment marteler aujourd'hui, c'est que sans eau, il n'y a pas de développement. Alors qu'on est toujours parti sur le côté on développe et la flotte, eh bien on verra après. Pour vous, non, c'est l'inverse.
Bah oui, parce qu'on a pensé, même en Bretagne, que l'eau était inépuisable. Et puis finalement, on se rend compte qu'elle est essentielle au développement de nos activités. Alors nous, c'est vrai qu'en Bretagne, on a beaucoup souffert de cette question. La Bretagne a souvent été montrée du doigt pour cette dégradation de la qualité des eaux qu'on a vécue dans les années 70.
13,5 millions de porcs aujourd'hui, 56% du cheptel, donc on le sait, nitrates, algues vertes, etc.
Voilà, on s'est vite rendu compte que la qualité de l'eau est une donnée essentielle du développement et de l'aménagement de nos territoires. Alors c'est vrai qu'en Bretagne, on a un système hydrologique assez particulier, puisque toute l'eau qui tombe en Bretagne s'écoule en Bretagne et se jette en Bretagne. Donc la responsabilité de la dégradation de la qualité des eaux littorales est totalement liée à la qualité des eaux terrestres. Donc tout ce qui se fait à terre peut avoir des conséquences en mer. Et à partir de ce constat, on s'est vite rendu compte que pour développer le territoire, pour produire des productions animales ou végétales de qualité, il nous fallait une eau de qualité. Et on a sans doute trop longtemps opposé développement économique et préservation de l'environnement, alors qu'on ne peut imaginer le développement économique de nos territoires, la qualité de vie de nos territoires, sans une eau de très grande qualité. Et c'est tout le défi qu'on essaie de relever ici en Bretagne aujourd'hui. C'est vrai qu'on a eu des constats douloureux dans les années 70-80, mais aujourd'hui, je crois que tout le monde a pris conscience que sans une eau de qualité, la Bretagne ne pourra pas préserver ce patrimoine exceptionnel naturel, cette biodiversité essentielle à l'aménagement de nos territoires.
Alors, il y a bien sûr, Thierry Burlot, encore des coins, on le sait, donc avec des anses et des baies qui sont quand même nourries par mal au nitrate. Mais globalement, il faut quand même saluer absolument tous les efforts que vous avez faits, parce que vous êtes en dessous de 30 mg maintenant par litre de nitrate. Ça, c'est, on va dire, c'est pour la moyenne, et donc il faut quand même vraiment le dire. Saluer aussi le travail de Eaux et Rivières de Bretagne, hein, qui est une formidable association, qui a été un aiguillon merveilleux. Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous prenez en compte l'amont et l'aval. Parce qu'en fait, les habitants de l'amont, qui sont, on va dire, dans les terres, doivent prendre soin de l'eau. Et ceux qui en bénéficient, principalement, ce sont les villes moyennes, les grandes villes. Et là, il y a un vrai problème. Il y a peut-être aussi un problème de fiscalité.
Il y a un problème de solidarité et de fiscalité. Le réservoir d'eau de la Bretagne, il est dans le centre-Bretagne, et c'est le territoire aujourd'hui qui vit les plus grosses difficultés en termes d'aménagement du territoire et de bien vivre. Et c'est vrai que sans ce réservoir d'eau de la Bretagne, les littoraux et les villes ne pourront pas se développer. Donc aujourd'hui, la question essentielle, c'est comment on pose les solidarités de l'amont à l'aval, de la ville à la campagne, du centre-Bretagne aux littoraux. Et aujourd'hui, force est de constater que la fiscalité environnementale n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Je prends un exemple. Dans mon territoire, là, il y a une zone d'activité qui va se créer avec un aménagement d'une grande base commerciale qui va consommer 20 hectares de terres agricoles pour plus de 4 ou 5 hectares de bâti. Ça va apporter au territoire concerné plus d'1,5 million d'euros de taxes par an. À côté de cela, j'ai des communes du centre-Bretagne où on va préserver des zones humides, des têtes de bassins versants, des zones essentielles à la vitalité du grand cycle de l'eau. Ben, ces communes-là, qui vont parfois geler 40 à 50% de notre territoire, ne percevront rien en termes de fiscalité. Et ça, c'est pas normal. Aujourd'hui, tout est fait pour finalement encourager l'artificialisation des sols. Ben, ça, c'est plus possible. Aujourd'hui, si on veut gagner la bataille du grand cycle de l'eau, il faut renverser cette fiscalité et aider solidairement les territoires qui protègent pour les autres. Ça, c'est essentiel.
Oui, donc vous dites bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas une véritable intégration de politique de l'eau dans les politiques d'aménagement. Tout ceci donc fonctionne plus ou moins en colonne. Donc c'est aussi à vous, c'est pour ça que votre discours est tout à fait intéressant. Comme vous êtes aussi président du comité de bassin donc de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, donc vous avez face à vous un parlement de l'eau avec différents acteurs, c'est-à-dire qu'ils sont près de 200, avec des agriculteurs, des industriels, du monde associatif, etc., des politiques bien sûr, des représentants de l'État. Fort et bien à ce que tout le monde se mette d'accord. J'aimerais que l'on clique quand même sur les zones de captage. Parce que justement, vous les voyez, donc ces zones de captage, où là on va capter l'eau, et on en a à peu près 35 000 donc, en France, mais il y en a aussi pas mal qui sont hors normes. Alors qu'est-ce que vous avez envie de dire ?
Je crois qu'aujourd'hui, la priorité essentielle, c'est de pouvoir distribuer une eau de qualité à nos populations, et la nécessité absolue de préserver ces zones de captage, et de donner les moyens aux collectivités, aux agriculteurs, aux associations qui travaillent sur ces sujets, d'avoir les moyens de trouver des consensus dans les territoires pour protéger cette ressource en eau.
Moi, je vais encore un peu plus vite. C'est-à-dire que, par exemple, dans la Beauce, chaque village avait son pompage avec la nappe de la Beauce. Maintenant, on a dépassé les seuils, mais vraiment pendant plusieurs dizaines d'années. Donc, c'est quand même pas très simple. Et lorsque vous avez certains élus qui vous disent « Ah ben nous, on a fait notre boulot sur l'eau potable », on a amené effectivement l'eau potable, mais au prix de ce qu'on appelle une interconnexion. C'est-à-dire d'aller chercher l'eau plus loin parce que sur place, elle est pourrie.
Eh oui, mais vous savez, c'est une mauvaise réponse. Parce que plus vous éloignez le citoyen de la ressource en eau, moins il se sentira concerné. Et je crois que ce travail est essentiel. Il faut garder de la proximité. Je crois que chacun est concerné par la préservation et la protection des ressources en eau. Et encore une fois, si l'interconnexion peut répondre à une question de santé publique pour l'eau du robinet, en tout état de cause, elle ne règle rien à la question du grand cycle de l'eau. Et je pense qu'il faut qu'on prenne tous la mesure qu'il n'y aura pas de développement et d'aménagement du territoire, surtout aujourd'hui où le climat est en train de changer, où la ressource en eau va être de moins en moins disponible. Ben, il va falloir tous faire l'effort de concilier économie et écologie.
Et aujourd'hui, d'ailleurs, même en Bretagne, hein, 0,2 à 0,3 degrés supplémentaires par décennie depuis 1959 jusqu'à aujourd'hui. Le port de Brest, il y a déjà plus de 25 centimètres d'augmentation donc de la mer depuis 1900. Restez avec nous parce qu'on parlera aussi tout à l'heure, on parlera de la Brescope. Je tiens quand même à souligner que vous avez été la première région à lancer les prix zéro phyto, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les 3 200 000 habitants de la Bretagne, vous en avez un tiers et un tiers des collectivités qui maintenant sont passées au zéro phyto dans les communes. Voilà. Donc et donc ce travail est aussi accompagné par l'agence de l'eau parce que là aussi donc bras financier donc l'agence de l'eau Loire-Bretagne et on va voir dans quelques instants aussi une autre réalisation. On continue en musique et restez avec nous Thierry Burlot.
Ça, marcher droit devant soi. comment tu vas prendre le temps, tout le temps que t'as pas. Sinon tu vois, c'est le temps qui t'aura. Tu devras traîner en route, regarder pousser les blés, pour pouvoir dire après. Tout ça, c'est de la vie, c'est l'eau. La flamme en nous qui fait feu de tout bois, c'est de la vie le beau combat qu'on gagne à chaque pas. Fais un pas, puis un autre pas.
Ben celle-là, on y tenait, hein, avec Thierry Dupin, on s'est dit quand même, Fugain, l'eau qu'on boit. Oui, d'accord, un peu premier degré, mais la chanson, elle est jolie. Et puis, elle nous parle.
Waouh ! Une grotte ! Vous êtes arrivé à une des sources de cette rivière. Regardez derrière vous. Ici, l'eau est parfaitement pure. La terre l'a patiemment filtrée pour la débarrasser de toutes ses impuretés et l'enrichir de bonnes choses minérales.
Qu'est-ce qu'elle est claire !
Et moi, je me sens mieux maintenant. Oh, qu'est-ce qu'on est bien !
CO2, mon amour, sur France Inter.
Ah bah oui, qu'est-ce qu'elle est claire ! Eh bah justement, plongée en eau trouble, c'est le titre du livre, j'ai presque dire du roman. Non, c'est pas un roman quand même. Aux éditions Michelon de Thierry Gadeau, donc avec nous, je le rappelle, journaliste d'investigation qui a fait beaucoup d'enquêtes économiques. Vous êtes intéressé donc l'année dernière à l'eau, à ce prix de l'eau. Alors, vous disiez que... Quelle est la singularité de la France quasiment sur la planète en matière d'eau ?
Oui, la France donc est le seul pays au monde où la gestion privée est majoritaire. Aujourd'hui, le marché de l'eau en France est environ 5 milliards de mètres cubes d'eau. Donc je parle de l'eau potable et de l'assainissement, c'est 5 milliards de mètres cubes d'eau consommée. C'est un marché qui représente environ 10-11 milliards d'euros. Et sur ces 10-11 milliards, la part qui tombe dans la poche des privés, c'est un peu plus de 5 milliards. Il y a 3 milliards et demi qui va dans les communes qui ont gardé la maîtrise en direct du service de l'eau et de l'assainissement. Et puis il y a environ 1,4 milliard, 1,5 milliard qui va financer les agences de l'eau. Donc on voit, c'est vraiment la singularité française, ça n'existe nulle part ailleurs. On considère que en fait la gestion privée dans le monde est inférieure à 5%.
Oui, en même temps, vous avez des communes, des municipalités qui vont vous dire, bah oui, mais attendez, pour nous, c'est plus facile peut-être de déléguer, donc d'avoir cette gestion au privé, quoi.
L'argument de la taille n'est pas valable, parce qu'il y a des petites communes, en milieu rural notamment, où le service est public, alors même que elles ont un certain nombre de limites financières, mais elles y arrivent. Et puis il y a des très grandes villes comme Paris qui sont passées en gestion publique, et d'autres comme Marseille ou Lyon qui sont toujours en gestion privée. Donc la taille de la commune n'est pas valable. En revanche, c'est une volonté de politique, et uniquement politique. Ce sont les élus qui décident et qui impose un mode de gestion.
Alors, on retrouve dans cet ouvrage, hein, plongé en eau trouble, on va dire, là vous y allez carrément, corruption, trafic d'influence, facturation illégale, les dessous du marché de l'eau en France. Vous n'avez pas eu d'ailleurs un seul procès, hein, depuis que le bouquin est paru. Donc, ça se passe en Ile-de-France, vous avez l'exemple de la Guadeloupe, en Avignon, à Lourdes. On a 6 heures de décalage, nos amis de la Guadeloupe, là nous écoutent. Je disais, mais très très vite, tout à l'heure, bon, il y a un vrai problème là, d'eau, et qui va s'accentuer, hein, si on ne fait rien.
Mes contacts sur place en Guadeloupe me confirment effectivement que le réseau est en train de s'effondrer, que d'ici 2 ans, peut-être 3 ans, il y aura un vrai problème d'accès à l'eau parce que les réseaux ne pourront plus rien fournir. Et aujourd'hui, les investissements nécessaires pour reconstruire le réseau en Guadeloupe sont estimés entre 600 et 900 millions d'euros.
Le prix de l'eau, vous dites qu'il devrait tourner autour de 1,50 €. La moyenne, c'est 3,80, 4 €. On va aller de 2 à 2,5 à 5 euros à peu près, on va dire en moyenne en France. Oui. Et vous dites que ce serait le bon prix, quoi.
Tout à fait. C'est le directeur des services techniques d'une ville, d'une petite ville, il y a moins de 10 000 habitants, qui m'a fait le calcul et qui m'a montré que lui, sur sa commune, si on lui laissait faire, il pouvait appliquer ce prix-là d'1,50 € par mètre cube, qui comprend à la fois donc le coût de l'eau potable, le coût de l'assainissement et le versement à l'agence de l'eau.
Mais alors le surplus, c'est pas non plus de la corruption, c'est pas ça. Donc on utilise.
Pas forcément.
Voilà.
C'est pas forcément de la corruption. C'est parce que. Alors après, c'est un choix politique. Il est évident que les services des eaux ont souvent permis aux collectivités locales de résoudre partiellement un problème de chômage sur place.
Donc d'employer des gens.
Sont un peu surstaffés. D'autre part, le privé fait peser des charges qui n'ont rien à voir avec la gestion directe de l'eau, puisque dans le calcul du prix, elles incorporent par exemple des charges pour frais de siège que personne ne connaît et qui sont dénoncées régulièrement par les rapports de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Donc on a on a aussi des provisions pour travaux dans le cadre du privé comme dans le public. On ne sait pas toujours si ces travaux sont réalisés parce que le taux de remplacement des réseaux est extrêmement faible et explique le taux de fuite très élevé au niveau national sur les réseaux. Donc
entre 20 et 30% de réseaux de fuite à peu près.
Officiellement, oui. Mais quand on prend les cas spécifiques, on voit qu'on arrive vite autour de 50%.
Alors, nous allons donc poursuivre ce voyage et justement, on va s'intéresser aussi donc à des choses très positives, c'est les reconquêtes du bon état écologique des eaux, comme on dit. Et pour cela, évidemment, dans certains cas, il faut travailler directement sur les rivières. Je vous emmène dans le département du Morbihan. Nous ne sommes pas loin de Vannes. Alors Patrick Camus, là nous sommes face à ce fleuve en fait qui s'appelle le Sal. Alors le Sal, ça nous rappelle quand même aussi le sel, hein, parce qu'il y avait des marais salants un petit peu plus bas. Et donc à quoi ressemble ce fleuve? Est-ce que c'est un fleuve, hein?
Effectivement, c'est un fleuve et on est à la tête de l'estuaire de la rivière du Bonneau. Et ce fleuve, en fait, il traverse une plaine alluviale et il coule dans une ria qui était envahie par les sédiments dans les aires géologiques et puis qui servait avant 1960, avant la création du barrage et de l'usine d'eau potable. Il avait une vocation pastorale et les paysans et les agriculteurs du coin amenaient les Bretonnes pinoires paître sur ces prairies humides en bordure de la rivière le Sal.
Avec un peu d'imagination, on peut dire que c'est un petit fjord, hein, c'est ça, hein?
Alors c'est un petit fjord parce que la forme effectivement de cette vallée, qui est sur environ 1,5 km, 2 km, est très encaissée et c'est un profil en U. Donc c'était probablement une petite vallée glaciaire avant qu'effectivement les glaciers se retirent et que ça s'assèche progressivement.
Nous sommes au pont de Sal, à Plougoumélen. Voilà, et on va vous parler de continuité écologique parce que on ne sait pas forcément que lorsque vous avez un plan d'eau, lorsque vous avez l'eau qui stagne, eh bien, ça dégrade la qualité de l'eau. Donc, Morbihan, je vous l'ai dit, en 2017, un barrage a été détruit pour rendre la rivière libre. Avant, il y avait une retenue d'eau potable, mais l'eau n'était pas de bonne qualité, le barrage était vétuste, vous aviez des cyanobactéries, de l'eutrophisation, c'était pas génial. Donc, reconquête d'un milieu pour assurer cette bonne continuité écologique. Patrick Camus, vous avez entendu, est le maire adjoint de Plougoumélen. Et ils ont réuni la population, les agriculteurs, les pêcheurs, les politiques, l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui a financé 60% quand même de cette affaire-là. Car avant, donc, il y avait ce plan d'eau dont on avait l'habitude, mais avec explication et pédagogie, cela a été accepté.
Ça s'est plutôt pas mal passé. À l'origine, c'était l'application du Grenelle de l'environnement. On se posait la question de savoir si on devait effacer ce barrage ou si on devait mettre en place des ouvrages pour permettre la continuité écologique. Le choix a été fait après une année d'études. avec Eau du Morbihan, avec la Fédération de pêche, avec la commune, avec le syndicat intercommunal d'assainissement et d'eau potable, propriétaire des ouvrages, d'araser ce barrage.
Alors Frédéric Audot, je vais me tourner vers vous parce que là vous représentez Eau du Morbihan, donc vous avez en charge la potabilisation des eaux du Morbihan. Ah, dis donc, c'est quand même drôlement joli là maintenant. Donc le barrage était là, c'était ça?
Oui, mais là il faut imaginer donc du coup un mur de 7 mètres de haut sur 86 mètres de long jusqu'à la berge opposée. Et juste quelques mètres derrière, un grand bâtiment qui était l'usine de production d'eau potable. Donc, aujourd'hui, tout ça a disparu.
Et alors, Patrick Camus, donc, aujourd'hui, il y a une réappropriation, bien sûr, des lieux, on va en parler, de cette biodiversité, mais aussi des gens qui ont un regard maintenant différent sur leur rivière, sur leur sol. Et...
Ah ben, il est vrai que pour les jeunes générations qui ont connu le plan d'eau, aujourd'hui, ils voient une totale transformation du paysage. Le sal a repris son lit ancien de 1960. Et la végétation est en train de recoloniser totalement le fond de cette retenue d'eau. Et donc les usages vont changer. Des usages de pêche qui étaient relativement limités parce que la faune piscicole était relativement pauvre, on a aujourd'hui plutôt des demandes pour de la randonnée, pour de la promenade, pour de l'initiation à l'environnement, à l'éducation de l'environnement.
Alors vous, Anne-Laure Caudal, vous êtes assez contente parce que vous représentez donc la Fédération de pêche du Morbihan, la protection des milieux aquatiques. Donc il y a eu un avant et un après. Alors quels sont les bienfaits? En fait, pourquoi restaurer une continuité écologique d'un cours d'eau?
Ah, c'est sûr qu'il y a vraiment une grosse différence pour les poissons avant et après. Ouais. Parce qu'avant, déjà, il y a deux aspects, c'est que c'était un plan d'eau. Donc c'était de l'eau chaude, calme, lente, il y avait des poissons dedans, mais ce n'étaient pas les poissons qui sont issus normalement du milieu naturel, les poissons d'eau fraîche et courante comme on a ici, c'est-à-dire la truite. Et en plus, il y avait quand même un barrage de 7 mètres de haut, donc impossible.
Ah, pour sauter, c'est pas facile.
Ah oui, pour sauter, c'est pas facile, les poissons restent dans l'eau. Ouais. Donc il y avait quand même une rampe à anguilles, ce qu'on appelle une rampe, c'est une espèce d'une sorte de paillasson, en fait, qui avait été installée sur l'ouvrage pour que les petites anguilles puissent monter. Elles rampent entre les tiges du paillasson, mais c'est quand même 7 mètres à franchir. C'est quand même très difficile pour des petites anguilles.
Ah, bah même avec du saut à la perche, il dépasse 6 mètres, ils font pas 7. Hein.
Voilà, alors elle passait quand même, parce qu'on avait des inventaires piscicoles en dessous et au-dessus du barrage. On en avait un peu, mais on s'est rendu compte que maintenant qu'il n'y a plus le barrage, on a quand même 4 fois plus d'anguilles au-dessus. Et surtout les toutes petites qui viennent de la mer, qui reviennent de leur grand voyage de la mer des Serquières.
Les sargasses.
Voilà. Ouais. Et elles, on a remarqué, donc l'année dernière, là, pour la première fois, il y avait 10 fois plus de petites anguilles qui passaient. Donc c'est comme une espèce qui est en voie d'extinction, en danger critique d'extinction. Donc on est vraiment très contents pour elles. Et puis elles réussissaient encore à passer parce qu'il y avait une rampe, mais alors il y en avait d'autres qui passaient pas du tout, du tout. Ouais. Les saumons, on a des photos, ils essayaient de sauter, mais ils se fracassaient contre l'ouvrage. Et puis il y a une espèce moins connue, mais qui est très intéressante, qui s'appelle la lamproie marine, et qui, elle se reproduisait au pied du barrage aussi, mais alors elle ne pouvait pas du tout grimper ces 7 mètres de haut, c'était pas possible.
Frédéric Honneau, alors maintenant parlons aussi de la qualité de l'eau. Qu'est-ce que l'on a regagné avec une rivière comme ça en liberté?
Pour le milieu, ça a tout changé, hein, parce que le sédiment a pu s'écouler librement. La rivière en amont a retrouvé son lit d'origine, quasiment. Il y a encore quelques mouvements pendant les périodes de crue en hiver.
Ouais, puis il faut dire qu'aussi de la crue, enfin, elle fait son boulot, c'est pas dramatique ici, il n'y a pas d'évitation.
Absolument pas. À l'endroit où on se trouve, on voit bien que. Enfin, on a du mal à imaginer qu'il y a encore 2 ans, c'était un grand bâtiment qui se trouvait là.
Ah ouais, bon.
La roselière qui est juste derrière a été bien préservée également pendant la période de travaux.
Ça doit être top, c'est pour les canards, pour les limicoles aussi, hein. Ça doit être sympathique là.
Ah, tout à fait. C'est un milieu qui a été renaturé de manière très rapide. Hein.
Alors Patrick Camus, qui vous-même vous intéressez à la biodiversité aussi, en plus maintenant votre rivière, donc le Sal, il chante.
Ah ben oui, ça c'est la grande différence entre un plan d'eau statique et qui était en voie de disparition et de dépérissement. Et là, cette fois-ci, on a effectivement un cours d'eau qui est remuant. C'est presque un torrent dans la partie amont de l'ancienne retenue. Ouais. Et effectivement, les poissons, ils sont heureux. La loutre colonise les berges. Et la diversité spécifique de ce secteur est largement amplifiée.
Alors Anne-Laure Caudal, justement, je suis une loutre, je suis heureuse là.
Ah oui, oui, tout à fait, parce que bon, la loutre, par rapport au poisson, elle a la possibilité de sortir de l'eau, ce qui est plus pratique. Donc elle était quand même moins pénalisée que les poissons. Mais il n'empêche que ce barrage, ça l'oblige à sortir de l'eau, à passer par l'extérieur sur les chemins où il y a un peu de fréquentation, alors que là, elle peut rester vraiment dans l'eau, dans son habitat, et puis aller après se cacher dans ses abris près des berges. Donc ça a changé vraiment, ça lui a facilité la vie, disons.
Et là, elle nous a fait un cadeau parce qu'on voit ce qu'on appelle une épreinte. Autrement dit, c'est une crotte de loutre et qui sent le poisson.
Oui, et le miel aussi.
Et le miel, oui, c'est vrai. Attendez, bougez pas. Ouais. Ah, c'est pas. Je sais pas où elle est, elle nous regarde peut-être.
Non, elle nous regarde, elle nous regarde sûrement, on la voit pas. Voilà.
Alors ça, c'est tout le travail que vous avez effectué, mais évidemment, Patrick Camus, il y a aussi ce qui se passe en amont. Alors là, c'est encore autre chose, parce que sur les plateaux, bah, c'est quand même du maïs intensif, c'est la PAC à plein, c'est du remembrement partout. Alors ça, c'est jamais non plus très très bon pour une rivière, même si on lui redonne une liberté.
C'est vrai, on lui a redonné sa liberté, comme dans la chanson « L'eau vive », mais effectivement, il y a encore quelques inquiétudes à avoir sur notamment tout ce qui se passe sur le bassin versant, où effectivement il y a encore des apports, même s'ils sont en réduction, d'engrais organiques, mais aussi malheureusement minéraux en complément, et puis des pesticides qu'il va falloir réduire si effectivement on veut permettre à tous ces poissons qui remontent aujourd'hui la rivière de pouvoir trouver leur nourriture.
Anne-Laure Caudal, comment on fait pour déménager, on va dire, les poissons, donc un grand étang comme il y avait avant?
C'est tout à fait ça, ils ont déménagé parce qu'on les a pêchés. Il y a un pêcheur professionnel qui est venu avec un grand filet, donc une senne. On a fait ça quand les niveaux étaient baissés, juste avant d'ouvrir le barrage. Il a attrapé avec une grande senne son filet les, dans la vase, là, c'était pas très agréable, les poissons qui étaient là pour les transporter, les mettre ailleurs. Donc en fait, on s'est rendu compte que, comme disait Frédéric, il y avait très peu de poissons. Ils étaient tout petits parce qu'ils étaient la population était vieillissante, donc il n'y avait pas grand-chose. Mais ils ont quand même été tous capturés parce qu'il n'était surtout pas question d'ouvrir le barrage et de les laisser partir en dessous, parce que ce n'est pas des poissons qui sont adaptés au cours d'eau en dessous. Et ça risquait peut-être d'introduire des maladies aussi. Et le pêcheur les a attrapés et les a transportés dans un autre plan d'eau à proximité dans lequel ils ont refait leur vie.
On a déménagé les poissons, mais on a aussi pété le barrage. Et alors, donc il y a quand même évidemment quelques déchets, comme on dit. Donc, comment on s'y est pris, Frédéric Honneau?
Alors, les déchets ont été valorisés au maximum sur site. Donc, on a évacué, bien sûr, tout ce qui est déchets dangereux, comme l'amiante, par exemple. En revanche, tous les matériaux inertes ont été valorisés sur site. Ils ont été concassés. Donc, c'est-à-dire que, très concrètement, c'est une, faut imaginer une grosse mâchoire au bout d'un bras d'une pelleteuse qui grignote et le barrage et le bâtiment de l'usine. Toute la partie béton, en fait, a été mise de côté. Les matériaux valorisables, comme le fer, ont été évacués. Et le béton a été concassé sur site, régalé sur le terrain. Ensuite, donc, une couche de terre végétale a permis de terminer le chantier et de ressemer pour retrouver un espace naturel comme ici.
Et la rivière a fait son travail toute seule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu besoin de l'aider pour retrouver son lieu.
Mais tout à fait, au début on se pose des questions, savoir s'il faudrait réaménager. En fait, il n'y a pas besoin. Une fois que le barrage est ouvert, le cours d'eau, les courants, les débits hivernaux qui augmentent font que ça recreuse tout seul et la rivière retrouve son lit naturel sans qu'on ait besoin d'intervenir du tout.
Qu'est-ce qui vous paraît exemplaire, vous, Patrick Camus, quand même, dans cette histoire? Parce que c'est pas toujours le cas. Il y a très souvent, donc, les gens ont, ce que l'on comprend, ont un affectif par rapport à un lieu. Ils ont toujours vu un étang, une retenue d'eau avec un barrage. Donc, il y a des blocages psychologiques, il y a des choses comme ça. Ça s'est pas passé comme ça chez vous,
hein? Ce qui est surtout exemplaire, c'est le fait que ça a été un travail collectif. Aussi bien des administrations, des associations, que de l'Agence française de biodiversité, que l'Agence de l'eau. Tout le monde a été unanime. Après avoir fait effectivement ce grand diagnostic qui a duré un an, de voir qu'il était plus utile de remettre la rivière dans son cours naturel et de valoriser ce site qui est un magnifique site pour la biodiversité actuelle et future.
Camille Blanès a formidablement réalisé, colorisé donc ce reportage qui était mixé par Pierre Faucillon. Alors aujourd'hui, vous avez 120 000 obstacles majeurs sur les rivières françaises et les fleuves, et seule la moitié des ouvrages est encore utilisée. Ce qui veut dire qu'on en a 60 000 que l'on pourrait effacer, mais bon, bah il faut beaucoup de concertation. Si vous souhaitez d'ailleurs retrouver la vidéo de ce chantier, de cette démolition évidemment en accéléré, vous avez le Twitter chez Sous, voilà, c'est HEI2SOUX, vous en avez l'habitude, et vous aurez tout dessus. Ça fait partie de vos travaux. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les agences de l'eau, ça a été donc dans les années 64, les stations d'épuration, on va dire pour faire très simple, le petit cycle de l'eau avec les tuyaux. Et maintenant, ce qu'on a entendu, ça fait partie de la reconquête de l'eau.
C'est une opération exemplaire, très très belle opération,
qui montre bien le lien aujourd'hui de l'eau et de la biodiversité. C'est la priorité des autorités gouvernementales de démontrer aujourd'hui que quand on agit sur l'eau, on agit aussi sur la biodiversité et que toutes les actions que nous menons, elles ont des conséquences sur la biodiversité. Et je trouve que cette opération illustre bien ce qu'on appelle aujourd'hui les solutions fondées sur la nature. C'est que le cours d'eau, il retrouve son cours. Évidemment, c'est pas celui qui pouvait exister il y a plusieurs milliers d'années. Il y a un territoire qui est aménagé, mais c'est la solution la plus naturelle qui a été retrouvée par les acteurs locaux.
It's still in San Diego. You can hear a baby cry as the trains in New York City roll thunder down the line. Teachers rise in Richmond as they sleep in San Antonio, while the harbor lights on Baltimore got nurses headed home. And they chose a Maricopa, say a man is but his wrong. America, but I can't see the dawn. Congressmen in Washington receive their briefing room while Letty fills the pipelines in a Detroit county.
Ron Jones et les Indications sur France Inter, CO2 de mon amour. Vous l'avez compris, nous sommes sur le thème de l'eau, histoire d'eau. Donc aujourd'hui, Thierry Gadeau, plongé en eau trouble. Alors voilà, parlons quand même aussi gentiment de l'agriculture, hein, qui va prendre 50% minimum donc de l'eau aujourd'hui. Le bon état écologique des eaux. Alors je sais bien que les Français sont voilà à la fois de l'agriculture en payant pas cher, en ne regardant pas trop, et donc il y a un moment avec les pesticides, et ben ça rigole pas. J'ai presque dire qu'il y a une forme de solidarité sans le savoir envers nos amis agriculteurs lorsque l'on paye aussi sa redevance.
Oui, parce que notre système qui est un exemple, pour le coup, les agences de l'eau, les comités de bassin, c'est un fonctionnement qui a été copié dans le monde entier, mais avec ce système, on a quand même transféré des charges de dépollution sur le dos du grand public, et des charges de dépollution qui normalement aurait dû être couverte par l'agriculture. Donc on a en gros, si je me souviens bien, les charges de dépollution sont autour d'1,6 milliard d'euros par an, et 80% du budget est financé par les cotisations que le grand public paye sur sa facture aux agences de l'eau. Donc ça pose quand même un problème de fonctionnement quand le pollueur n'est pas le payeur.
Et autre chose aussi là, actuellement qui est quand même assez inquiétant, c'est que les 6 agences de l'eau donc ont des redevances autour de 2,2 milliards. Et ben là l'État donc a dit on va prendre donc 200 millions donc d'un côté, et puis après donc on va financer aussi alors l'Agence française pour la biodiversité, etc. Donc
plus globalement c'est l'avenir même des agences de l'eau qui aujourd'hui est en question, parce que il y a une succession de réformes très profondes du cadre réglementaire. qui met aussi en cause le financement même des agences. On sait qu'il y a une décision du Conseil d'État sur le statut de la redevance qu'elle considère être un impôt et non pas une taxe, et donc qui devrait être versée au budget de l'État et non pas directement aux agences de l'eau. Donc il y a un certain nombre de questions fondamentales qui se posent, et dans le cadre à la fois de la GEMAPI, de la loi NOTRe, les collectivités locales s'inquiètent énormément aujourd'hui sur les subventions qu'elles pourraient obtenir de la part des agences de l'eau pour continuer ce travail de modernisation, d'entretien des infrastructures, de dépollution. Donc le système français aujourd'hui est un tournant et un peu critique.
Ce qu'on appelle la GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention donc des inondations. Mmh. Alors c'est vrai aussi que les agences de l'eau donc financent les réserves naturelles, les conservatoires des espaces naturels,
les chasseurs.
Les chasseurs, effectivement, le fameux permis, oui, c'est encore chose. Martin Guton.
Non, on est dans une période qui est difficile, mais c'est aussi un aiguillon pour les agences de l'eau. Moi, je vais le voir comme ça de façon positive. Je crois que ça nous oblige aussi à rappeler à quoi on sert, de se re-questionner sur nos missions, de se réajuster, d'évoluer, de se réorganiser. Voilà, je le vois de façon plutôt positive et dynamique.
Nous allons revenir où cela ? Eh bien, sur Paris. Et là, en ligne, Célia Bloel, qui est la présidente d'Eau de Paris, adjointe à la maire de Paris, en charge de la transition écologique, du climat, de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement. Célia Bloel, bonjour à vous. Vous fêtez les 10 ans de Eau de Paris, c'est-à-dire que vous avez remunicipalisé l'eau. Vous avez dit au revoir donc au privé, à Suez et à Veolia avec cette régie parisienne. Quels sont les résultats, Célia Bloel ?
Bonjour. Alors, il y a eu de nombreux bienfaits, mais je dirais qu'il y en a au moins trois principaux. D'abord, c'est d'avoir remis vraiment une gestion 100% publique et de remettre la boussole de l'intérêt général sur l'ensemble de la chaîne eau, de la source jusqu'au robinet. Ça nous a apporté beaucoup de transparence aussi. On gère maintenant cette régie avec des citoyens qui participent à nos instances de régulation du service public de l'eau. Et puis, ça a aussi apporté quelque chose d'intéressant pour le porte-monnaie, une baisse de 8% du prix de l'eau qui n'a pas augmenté depuis la remunicipalisation, ce qui n'est pas anodin pour les Parisiens.
Alors, Célia Bloel, vous êtes en charge du captage, du traitement, de la distribution des eaux. Donc vous avez différentes usines évidemment qui existent, des réservoirs dont un très très beau qui est celui de Montsouris. Mais moi j'ai envie de revenir vraiment en amont sur le captage. D'où vient votre eau pour les 3 millions d'usagers ? Et évidemment qu'on va assez loin, donc on va à la campagne. Et quels travaux avez-vous effectués avec les agriculteurs ?
Alors c'est la particularité parisienne. 50% de l'eau du robinet des Parisiens arrive de la Seine et de la Marne, mais les 50% restants effectivement viennent de sources qui sont à 100-150 km de Paris, en pleine campagne. Et sur ces 102 sources, eh bien, nous avons des agriculteurs avec lesquels on a décidé de travailler pour prévenir les pollutions de l'eau à la source plutôt que de traiter dans des usines. Et du coup, on a décidé de faire une politique assez innovante, même très innovante. On acquiert des terres agricoles et on propose de les remettre en bail environnemental aux agriculteurs qui s'engagent à l'agriculture biologique. On accompagne plus d'une centaine d'agriculteurs qui, eux, sur leurs terres, eh ben, décident de changer de pratique, soit de réduire les pesticides, soit de passer en agriculture bio. Et puis, on file aussi un coup de main, j'ai envie de dire, sur la nouvelle filière qui se crée au local. Ces agriculteurs, on les aide pas que sur la pratique agricole, mais aussi à trouver des débouchés. C'est comme ça, notamment, que 7 tonnes de l'antibio sont arrivées dans les cantines scolaires il y a maintenant quelques mois. Donc, on essaye vraiment de faire toute la boucle. On s'occupe de réduire les sources de pollution dans l'eau, mais aussi de travailler sur un autre modèle économique pour les paysans, plus respectueux de la santé, de l'environnement, et qui demain pourra approvisionner Paris.
Alors Célia Bloel, vous avez aussi en charge donc le climat dans votre portefeuille. Eau et climat, évidemment, ça va ensemble. Quelle stratégie avec toutes les incertitudes que l'on a ? Mais on voit très bien évidemment que l'augmentation se passe partout aujourd'hui, donc de ce fameux effet de serre et donc de ce réchauffement. Quelle stratégie on a ?
Ce qu'on fait côté parisien, mais aussi à l'échelle de tout le bassin, c'est d'essayer de comprendre un peu mieux. Et malheureusement, les prévisions qu'on a avec Météo France montrent qu'on risque d'avoir des problèmes d'eau, moins d'eau dans les nappes phréatiques, moins d'eau dans les fleuves dans les décennies qui viennent. Donc on travaille sur l'économie, en fait, rendre le système d'eau potable économe en eau, travailler sur les fuites, travailler avec tous les acteurs de l'eau, les agriculteurs, mais aussi les grandes industries, pour qu'on puisse protéger cette eau, parce qu'on sait qu'à l'avenir, on aura des problèmes et de quantité, de disponibilité de l'eau, mais aussi de qualité. Donc on est en train en ce moment de mettre en place des stratégies sur tous les volets pour à la fois travailler sur les grands appareils industriels et puis aussi impliquer de plus en plus les Parisiens, les métropolitains, les franciliens pour qu'ils protègent cette ressource en eau, parce que ça va être un sujet majeur dans les années qui viennent.
Ce que l'on retient en tout cas de votre discours, c'est le mot prévention, que ce soit en matière de captage, que ce soit en matière de climat. C'est
ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que vous essayez de, non pas de réparer, de faire du curatif, mais avant tout de mettre le paquet sur le préventif.
Vraiment, on sent que c'est la clé, c'est de changer complètement le modèle dans lequel on se construit, de pas aller dans le curatif, de faire des grosses usines pour dépolluer l'eau, mais bien de travailler sur le préventif, parce que non seulement ça a un impact sur l'eau, mais tout de suite derrière, eh ben, ça a un impact sur la qualité de l'air, la qualité des sols, l'économie locale, l'alimentation dans nos assiettes. Donc c'est complètement systémique et ça nous permet de changer de modèle et d'avoir un impact positif pour l'environnement, la planète, mais aussi d'améliorer la qualité de vie.
Et c'est ce qui s'est fait d'ailleurs aussi depuis très longtemps à Munich, à New York aussi, à Londres-Saunier. Il faut quand même dire aussi qu'on a des exemples très intéressants. Vous avez aussi Artois Picardie avec les agriculteurs biologiques du Nord-Pas-de-Calais. Donc voilà, c'est là. Alors là, nous étions à Paris, donc de Paris-Scope, comme l'a soufflé Martin Guton, jusqu'à la Brescope. Qu'est-ce que la Brescope, Thierry Burlot, en un mot, s'il vous plaît, je reviens vers vous, vers la Bretagne.
Eh bien écoute, mon cher Denis, la Brescope, c'est simplement que la Bretagne, la région Bretagne, prenne sa part et ses responsabilités face au réchauffement climatique et aux grandes questions qui se posent. Et l'idée, c'est de tout simplement que la Bretagne signe les accords de Paris et s'engage dans les accords de Paris pour préserver l'eau, la biodiversité, son patrimoine naturel.
C'est noté.
Et faire en sorte que cette Brescope s'adosse à notre fameuse Strade nationale d'aménagement et d'égalité.
Merci beaucoup Thierry Burlot, merci à vous. Plongée en l'eau trouble aux éditions Michelon, c'est signé Thierry Gallo. Je peux citer aussi L'homme et l'eau, de la surconsommation à l'équilibre, aux éditions Manifesto d'Evelyne Ramlet et Pauline D'Alençon. Aussi le livre d'Anne Lestrade, hein, qui a beaucoup travaillé pour Ma bataille pour l'eau de Paris, c'est au petit matin. Ce H2O, mon amour, était donc, donc terminé. De la semaine prochaine, d'autres sujets. Merci à Lisa Mchin, à Camille Blanès qui a réalisé cette émission. Thierry Dupin, Anne Gouzon qui nourrit les sites. Le podcast, vous en avez l'habitude. La rediffusion entre 5h et 6h. Le Twitter chez Sou. Et puis, les petits bateaux. Les petits bateaux, c'est une chose. Mais après, il y a la tulu, mon petit loup. Mais oui, où les loups vont boire dans de l'eau fraîche et claire. Ce sera 19h54. Je fais comme je peux. Je vous souhaite un très très bon week-end.